Ce matin, on va pas faire trop long, chers amis, ne vous inquiétez pas, mais quelques proverbes. Et si vous tournez la page de votre feuillet, vous allez voir que j'ai mis ici comme titre deux mises en garde pour 2018. Vous pouvez trouver dans votre Bible si vous voulez, sinon nous allons projeter dans quelques instants quelques proverbes tirés du chapitre 26. Et moi, je vais prier brièvement que le Seigneur nous aide à écouter sa sagesse. Et puis, nous allons voir cela ensemble, ok? Donc, prions ensemble, chers amis, et puis, on est dans les proverbes. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci que ta parole ne change pas, parce que toi, tu ne changes pas. Et ce que tu disais à l'époque même de Salomon et d'autres qui ont écrit ces proverbes reste encore aujourd'hui de l'actualité. Donc, donne-nous par ton esprit d'entendre ta parole. Et d'agir en conséquence. Donne-nous de te glorifier avec nos résolutions pour cette nouvelle année 2018. Et cela, Seigneur, pour la gloire de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Bon, quelqu'un a appelé les proverbes l'équivalent du compte Twitter de l'Éternel. Je ne sais pas si c'est juste, si ça convient très bien. Il s'agit de quelques propos bien concis, avec le but de nous interpeller à choisir. En pratique, comme nous l'avons vu la semaine dernière, la voie de la sagesse et non pas la voie de la folie. À apprendre à nous comporter de manière sage. Alors, les proverbes nous disent, le livre des proverbes nous disent que le début de la sagesse, chapitre 9, verset 10, dit ceci, c'est la crainte du Seigneur. Le début de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Et les proverbes nous aident à voir à quoi ces craintes doivent ressembler dans notre vie quotidienne. De manière, je pense, parfois provocateur, mémorable, les proverbes stimulent notre réflexion. Quelle est, dans la pratique, la voie de la sagesse, la crainte du Seigneur? Car parfois, il n'est pas question d'une décision noire et blanche, ça, on le sait. Parfois, on est face à une décision où il faut sagesse. Parfois, il ne fait pas décision forcément d'obéir ou de désobéir au Seigneur, mais plutôt sagesse. Quelle est la bonne voie à prendre ici dans cette situation ou celle-là? Et les proverbes nous confrontent avec diverses situations où nous disent choisissons, chers amis, la voie de la sagesse. Les proverbes secouent, je pense, un peu nous qui sommes un peu trop confortables dans notre vie. Et pour cette nouvelle année 2018, alors, voici donc deux exhortations que nous allons juste regarder brièvement ensemble. Deux exhortations à la sagesse tirées du chapitre 26. Deux mises en garde pour cette nouvelle année. D'abord, évitons la paresse. Évitons la paresse. Okay? Verset 13 du chapitre 26 que vous voyez, je pense, projeté devant moi, derrière moi. Super. Le paresseux dit, verset 13, il y a un fauve sur la route. Il y a un lion sur la place. La porte tourne sur ses gonds, le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il est trop fatigué pour la ramener à sa bouche. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répand avec du jugement. Le langage, je pense que vous l'entendez, se moque du paresseux, n'est-ce pas? C'est un portrait un peu humoristique, d'ailleurs, de ce que c'est être paresseux. On se moque de lui, c'est pas possible qu'on ait aussi paresseux que cela. Mais son problème, nous dit le verset 16, c'est que cette personne ne se reconnaît pas dans ce portrait, il se croit sage des fois. Et donc je pense qu'il faut creuser un peu plus pour comprendre ce que c'est le paresseux, car les excuses offertes du paresseux démontrent d'autres excuses aussi de ce genre courant pour nous aujourd'hui. Que dit le paresseux au verset 13, alors, chers amis? Il y a un fauve, un grand chat, un lion sur la route. Aïe, c'est trop dangereux. Je ne peux pas sortir, vous savez, trop difficile. Non, je choisis l'option sécurité, ok? Je reste chez moi. Y a-t-il réellement un lion sur la route? Bien sûr que non. Oui, c'est pas exclu qu'il soit parfois un lion sur la route. Mais il exagère le paresseux. Il exagère le danger pour justifier sa paresse. Il cite la potentielle difficulté qui est devant lui d'une activité comme une justification pour ne pas s'engager dans cette activité. C'est un peu comme des parents ici, chers enfants, excusez-moi si je vous vise. Je ne vise pas exclusivement les miens, ni les vôtres, de manière générale. C'est un peu comme des parents à Noël, le Nouvel An, qui proposent une belle balade avec ses enfants qui ont le nez dans un écran. Ok ? Oh non, il fait trop froid dehors, vous savez. Oh non, je suis levé un peu tard, je suis super fatigué. Ok ? C'est la paresse qui agit à ce moment-là, chers amis. Ou bien le paresseux évite ce qui est difficile en essayant de remplir sa journée, peut-être connaissez ceci, avec des choses plus faciles à faire. Au lieu de faire la tâche qui est difficile, que je dois faire, payer des factures, faire un devoir, écrire un rapport, nous atteignons en décidant de faire autre chose, moins importante. Ah, tout d'un coup, je dois consulter ce site internet pour voir qui a gagné ce match-ci, ou voir combien coûte cette robe qui m'intéresse. Je dois trouver des emails à lire, plutôt. Je dois ranger un peu mon bureau avant de commencer le rapport. Vous voyez ça? Okay? On décide de faire ce qui est plus facile parce qu'on ne veut pas aborder la chose qui demande plus de temps. C'est la paresse, chers amis. Par crainte de difficulté, donc, nous décidons de ne pas nous engager. Et nous pouvons ajouter à cela le manque de motivation que soulève le verset 14. La porte tourne sur ses gonds, le paresseux sur son lit. C'est pas possible, n'est-ce pas? C'est ce qu'un paresseux fait. Il fait rien d'autre que tourner dans son lit. J'aime beaucoup cette description comme motivation pour éveiller les enfants le matin. Okay. Il ne se lève pas, il est tellement paresseux qu'il tourne dans son lit. Et je pense que c'est juste d'évoquer ici le manque donc de motivation d'une telle personne paresseuse. Je ne me sens pas bien, tu sais. Oh non, je dois encore rester un peu plus au lit. Cette personne-là, donc, est trop liée à son propre confort. Trop confortable pour sortir de chez soi, de chez lui. Et donc, le verset 13 et le verset 14, ensemble, peignent, je pense, un portrait de la personne qui ne veut pas s'engager, qui ne se donne pas de lui-même pour les autres, qui est trop vite à trouver des excuses, trop vite à penser à son confort dans l'ensemble. Le paresseux pourrait facilement donc être non seulement un enfant, mais aussi un adulte, assis passivement sur le canapé, qui ne s'engage pas dans une activité, qui aide rarement à la maison, car cela demande, vous savez, juste trop d'efforts. C'est la personne au travail qui se donne rarement au-delà du minimum requis par son boss, par son chef. C'est la personne qui dit trop souvent à son responsable au travail. Écoute, je veux bien aider, bien sûr, mais je suis trop occupé. Non pas parce qu'il est trop occupé, en réalité, mais car il a peur de l'inconnu. Il ne souhaite pas perdre le contrôle de tout ce qu'il fait. Ose dire que cette personne se trouve sous une forme ou une autre aussi dans l'église de Jésus-Christ, dans notre église locale. Je ne préfère pas m'engager, tu sais, parce que bon, j'ai du mal à sortir. C'est trop demandeur de m'organiser pour sortir le soir, pour être impliqué en 2018 dans un petit groupe quelque part. Ou bah, je veux bien en principe inviter quelqu'un de l'église à un repas pour que je puisse lui parler de ma foi, de sa foi, pour l'encourager. Mais vous savez, ça implique un effort. Ça implique que je cuisine à l'avance, ça implique que j'achète, je fais des courses supplémentaires. Donc, oui, en principe, mais bon, en réalité, non, pas le temps pour ça. Alors, certaines personnes de conscience plus sensibles vont écouter ce que je viens de dire. Et donc, pensez, il me vise, ce n'est que le premier dimanche de 2018, et déjà il pointe le doigt en disant que je dois assister à ceci ou cela, qui ne comprend pas mes circonstances. Non, je comprends, j'espère. Bien, les contraintes de différentes personnes, ils ne sont pas tous les mêmes, nous avons tous les différentes contraintes. Okay? Mais le principe que le Seigneur dit ici à chacun d'entre nous, pour ce début 2018, ce n'est de ne pas se cacher, de ne pas cacher notre paresse derrière des excuses. De demander au Seigneur de nous aider à travailler cette année-ci, dans la famille, dans le domaine professionnel, dans l'Église. Et le verset 15 nous avertit que parfois c'est un excès de plaisir qui contribue à notre paresse, n'est-ce pas? Le paresseux plonge sa main dans le plat et il est trop fatigué pour la ramener à sa bouche, n'est-ce pas? Parlant cette image aussi, tellement habitué à des mets succulents cet homme qui n'a même plus l'énergie pour lever sa main à la bouche. Oh! Mais c'est le danger ici des divertissements, vous voyez. On s'y met quand on trouve du plaisir là-dedans, dans un divertissement. Prenons l'exemple de la télé, souvent allumée, je pense encore aujourd'hui, dans nos foyers à nous. Mais le plaisir que nous avons dans ce divertissement devient souvent un maître. Elle nous rend moins sensible à d'autres obligations, et ça, c'est le danger. On devient tout d'un coup gêné si quelqu'un m'appelle lorsque je suis en train de regarder la télé, ou on décide d'éviter une réunion ou une autre, car c'est le moment où mon émission préférée passe à la télé. Si nos passe-temps télé autres, okay, on soit neutre en tant que chose, en tant que passe-temps, mais si nos passe-temps nous dominent à un point que toutes les autres activités en dehors de cela apparaissent trop demandeurs, hein, alors le passe-temps me rend paresseux. L'exemple, je pense par excellence, pour beaucoup d'entre nous pour le moment, c'est nos écrans. Smartphone, tablette, ordinateur portable. En moyenne, en 2015, les utilisateurs de Facebook prenaient 50 minutes par jour pour consulter les produits de la gamme Facebook, c'est-à-dire Messenger, Facebook et Instagram. 50 minutes par jour pour chacun qui s'en sert. Ce n'est pas pour viser Facebook, mais ceux qui l'utilisent, mais c'est un exemple à quel point ces choses prennent du temps et gaspillent notre temps au lieu de nous aider à réfléchir pour une utilisation modérée de ces choses. Donc, ce n'est pas que c'est mauvais, mais il semble que cela nous rend moins performants suivant ailleurs. Demandez à un enfant, et les enfants, écoutez bien ceci, d'éteindre votre écran et d'aider à la maison peut provoquer une crise chez l'enfant. Des plaintes, ok? Mais ce que j'ai envie de dire, ce n'est qu'un passe-temps, chers amis. Et si vous n'êtes pas capable de déposer la chose et dire bien sûr, j'assume mes responsabilités dans d'autres domaines, ce passe-temps devient votre maître. Mais cela s'applique à toute activité de loisir, le sport, la musique, l'art, la lecture, la télé, les randonnées, les clubs, etc. On doit retrouver dans ces domaines ce qu'on a vu la semaine dernière, le contrôle de soi. Est capable de rater une rencontre d'ici et là, d'éteindre l'écran quand il faut. Et en ce début d'année, je pense que nous devons avoir quelques résolutions de ce genre. C'est-à-dire de dire, si j'ai une difficulté dans ce domaine-là, alors pourquoi pas décider un jour par semaine d'exister sans écran. Ou une soirée par semaine où je m'engage de faire partie d'un petit groupe, quoi que ça coûte dans d'autres domaines de ma vie. De dire en début d'année, 15 minutes, par exemple, par jour, au début de la journée avec la Bible ouverte, avant d'allumer un écran, c'est une bonne pratique à mettre en place. Samuel l'a mentionné, mais je pense aussi que nous devons insister que la réunion de prière mensuelle de l'Église doit être fréquentée par plus de personnes de notre Église. Non pas comme une loi, chers amis, bien sûr que non. Mais si nous sommes là maintenant dans cette salle, à peu près 100-120 adultes, et à la réunion de prière, nous sommes parfois entre 10 et 15 personnes. Cela signifie que trop de fois, répété, il y a d'autres priorités qui priment sur trop de personnes pour qu'une seule fois par mois, pour une soirée par mois, on consacre pour notre vie d'église locale un moment pour que le Seigneur soit au centre, pour que nous manifestions notre dépendance du Seigneur dans ce domaine. Donc, il y a l'excès des plaisirs dont parle le verset 15. Et le verset 16, je pense, ouvre la porte à un autre domaine par lequel nous observons la paresse, par ses propos oisifs. Donc, le paresseux se croit plus sage, verset 16, que cet homme qui répand avec du jugement. Tout cela sous-entend que le pharisien ne réfléchit pas dans ses propos. Qui répond de manière précipitée, sans jugement. Il répond vite. Il se contente de ce qu'il a dit. Il offre facilement son opinion. Il est paresseux aussi dans ce domaine-là. Et donc, nous devons dire attention à former des jugements trop vite, sans avoir pesé suffisamment de données pour comprendre. C'est paresseux, cela, chers amis. Et c'est frustrant. Évitons cela. Cela nous mène donc à notre deuxième mise en garde pour cette nouvelle année. Celle de causer des dégâts relationnels par nos paroles. Plus brièvement, celui-ci. Ce serait un thème soulevé à partir de la semaine prochaine dans l'épître de Jacques. Pas tout de suite la semaine prochaine, mais à partir de la semaine prochaine, on démarre une nouvelle série dans l'épître de Jacques et nous allons voir que la façon par laquelle on parle compte pour beaucoup dans la mise en pratique de notre foi dans cet épître de Jacques. Donc, évitons de causer des dégâts relationnels par nos paroles. Okay? Donc, il y a ici trois dangers. On va juste toucher ces trois dangers très brièvement ensemble. D'abord, le danger de se mêler des affaires d'autrui. Verset 17. Comme celui qui saisit un chien par les oreilles. Vous avez un chien chez vous? Vous avez essayé de saisir votre chien par les oreilles? On n'en a pas. Okay? Mais on a un chat. Et déjà, de prendre notre chat de la mauvaise manière peut facilement créer du dégât. Okay? Ça, c'est clair. Okay? Tel est un passant, nous dit le verset 17, qui s'immisce dans une querelle dont il n'a que faire. Okay? Pourquoi ça crée autant de dégâts quand il ne comprend pas une telle personne, le contexte dans lequel il s'installe. Il n'a pas pris le temps de bien écouter les deux protagonistes d'un argument, d'un débat, d'une discussion. Et au lieu d'aider, alors cela ajoute de l'huile sur le feu. Et c'est ce même sentiment qui est souligné dans les versets 20 et suivants. Faute de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a pas de médisant, la dispute se calme. Du charbon sur des braises, du bois sur du feu, tel est l'homme de dispute qui attisse la querelle. Oui, et puis verset 22, plus bas, plus loin, en expliquant pourquoi. Les paroles du médisant sonnent comme des friandises. Ils sont bons là, ces friandises. Miam, miam, j'aime beaucoup ça, ça entre en moi, n'est-ce pas? Ils descendent jusqu'au fond de mon âme. C'est-à-dire que des médisances nous font du mal, profondément. Lorsque quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas juste à notre sujet, et on parle aux autres, qui partagent peut-être une confiance que nous avons avec quelqu'un, qui fait peut-être circuler quelque chose que nous avons dit sans expliquer le contexte dans lequel ces propos ont été dits, c'est de provoquer, chers amis, du dégât relationnel. Et ici, je pense qu'on pourrait donner plus d'exemples, n'est-ce pas? Mais quand on entend, nous, de nos relations entre nous, entre frères et sœurs, ici, dans l'église locale. Car il n'y a rien que des paroles mal placées pour rompre des relations dans la famille de Dieu. Vous avez entendu quelque chose à propos de quelqu'un d'autre, peut-être? Alors merci de ne pas partager cette nouvelle, mais de parler avec la personne concernée, la personne qui a offert la remarque, pour que les sources soient bien vérifiées avant d'aller plus loin avec quelque chose. Vous avez entendu quelqu'un dire quelque chose, ou quelqu'un vous écrit quelque chose par rapport aux autres? Faites un effort de prendre en compte le contexte dans lequel cela a été écrit avant de trop vite juger l'autre. Vous êtes frustré avec quelqu'un? Quelqu'un vous a fait du mal? Ça arrive, on en avait déjà parlé dans nos témoignages, même au sein de la famille de Dieu. Mais lorsque vous parlez de ce cas, de l'autre et de ce tort, soyons très attentifs, chers amis, de ne pas exagérer le fait. De ne pas embellir ton récit de ce qui s'est passé avec des détails plutôt subjectifs. Qui porte un jugement négatif de manière injuste sur la personne. Parce que ça provoque une réaction forte par rapport à ça. Au lieu d'aider le débat, de rester restreint sur le fond du problème. C'est comme dans un couple où le mari ou la femme dit « Oh, mais vous êtes toujours comme ça. » Ok? C'est tout de suite, ça, au lieu de rester limité dans le domaine où il y a dispute, on ouvre, boum, toujours comme ça. Ok? C'est la frustration. Mais ça n'aide pas à la résolution. Même chose dans l'Église. Donc, soyons attentifs du dégât relationnel que nous pouvons créer. Si vous vous sentez attaqué par quelqu'un, verbalement parlant, ne vous défendez pas par l'attaque. Hein? Tu m'as dit ça, alors hein? Moi, je vais dire ça. Non. Okay? Parce que ça va aboutir à la division. Et ayons l'humilité d'apprendre, d'entendre ce que quelqu'un dit de négatif de nous sans devoir réagir en se protégeant. Trop de fois, chers frères, notre fraternité est mise en danger lorsque de telles choses arrivent parmi nous. Mais si la médisance, le fait de se mêler dans les affaires, crée du dégât, c'est aussi le cas si nous parlons trop à la légère. Versets 18 et 19. Comme un fou furieux qui lance des flammes, des flèches, et la mort, tel l'homme qui trempe son prochain. Puis qui dit, ah, c'était pour plaisanter. Bonne blague, n'est-ce pas? Mais beaucoup de vérités se disent en plaisantant. N'est-ce pas? Je pense que si parmi tous ces trucs, la chose qui m'a le plus parlé, moi personnellement, c'est celui-là. Le fait de parfois taquiner, dire des choses. Mais en dessous, il y a du vérité dans ce qu'on dit. Et on blesse. Et on sait qu'on blesse. Et on n'arrive pas à restreindre notre désir de blesser l'autre. Le fait d'emballer cela par de l'humour, c'est un moyen de manipuler l'autre, n'est-ce pas? Oh, sois pas trop sensible, je te taquiner, non? Ok? Mais si on faisait l'inverse, tu l'aimerais ça? Apprendre à être taquiné, c'est bien, je pense que c'est bien. Nous devons apprendre ça, pas à manipuler dans le sens où personne ne peut jamais nous taquiner parce qu'on est trop sensible sur toute chose. Ça nous apprend à ne pas se prendre au sérieux, ça c'est vrai. Mais taquiner nous-mêmes les autres pour blesser en dessous, cela ne fait pas très d'amour. Si parler trop à la légère peut blesser des autres, si se mêler dans les affaires des autres crée du dégât relationnel, bien évidemment, on peut également tromper les autres dans nos propos. Nous n'avons pas le temps de voir de près le verset 23 jusqu'au verset 28. Mais ils nous mettent en garde des paroles flatteuses qui ont pour but d'autres objectifs. Voyons, par exemple, le verset 25. Lorsqu'il met de la grâce dans sa voix, ne le crois pas, il y a cette abomination dans son cœur. Puis le verset 28. La langue menteuse déteste ce qu'elle écrase, la bouche enjôleuse provoque la ruine. C'est la tendance de servir des autres pour nos propres objectifs. Servir la flatterie, la déception, le mensonge pour se faire avancer dans la vie, même au sein d'une église. Et malheureusement, dans l'église, nous ne sommes pas toujours à l'abri de cela. Cette année écoulée, nous avons suffisamment d'exemples de ce genre de flatterie. Dire une chose, se présenter d'une certaine manière le dimanche matin, et puis se révéler autrement. Dans d'autres contextes, de lundi à samedi. Donc voilà, rapidement, chers amis, deux mises en garde. La paresse, évitant la paresse, et évitant de causer des dégâts relationnels par nos paroles. Facile à dire, n'est-ce pas? Mais plus difficile à vivre. Et j'aurais tort, je pense, de terminer avec ça. Car cette sagesse, dans sa perfection, nous échappe. L'année après l'année. Il fallait quelqu'un qui n'était ni paresseux, ni déplacé dans ses propos pour accomplir cette sagesse parfaitement, n'est-ce pas? 1 Pierre chapitre 2, que je pense que nous avons aussi sur l'écran, nous dit ceci au verset 22. Ça cite le prophète Ésaïe, parle de celui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte. Maltraité ne faisait pas de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Oui, donc Christ, Jésus-Christ, est notre sagesse. Il s'est donné de lui-même pour son peuple. Mais pourquoi a-t-il fait? Pour que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. Donc cette sagesse dont nous venons de parler n'est pas trop difficile, trop loin de chacun de nous. Alors, se rapprocher de Jésus-Christ en 2018, c'est de s'approcher de sa puissance qui œuvre également en nous, par son esprit. Paul dit la même chose à Tite, chapitre 2, verset 11, « Car elle s'est manifestée la grâce de Dieu, source de salut. » On va encore parler de ce salut tout le long de cette année. Mais pourquoi parlons-nous de ce salut pour tous les humains par la grâce? Parce que verset 12, elle nous apprend cette grâce à renier l'impiété et les désirs de ce monde et à vivre dans le temps présent d'une manière pondérée, juste et pieuse. Et donc ainsi, en tant qu'être choisi par Dieu, nous dit Colossiens, saint et bien-aimé, revêtez-vous, nous, ici rassemblés, de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Alors je pense que c'est là où on va terminer pour ce début d'année 2018, chers amis. Je vous invite à prier avec moi. Je vous invite aussi à vous engager à vivre ces réalités avec moi tout au long de cette année. J'espère que vous allez prier pour moi, dans mes démarches, dans mes propos, pour nous en tant que responsables, Samuel et Roby et Jonathan ensemble, dans notre façon de gérer les difficultés dans la vie de l'Église. Mais nous allons aussi prier pour vous, pour que de plus en plus nous puissions ressembler notre Sauveur, notre Seigneur, Jésus-Christ. Prions ensemble, chers amis. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta parole. Nous voulons te remercier.